France Inter. Le 18-20. Fabienne Saint-Est.
Tout sur la vaccination. Alors, une stratégie à la française qui s'accompagne donc d'une obligation vaccinale qui ne porte pas son nom, puisque le pass, vous le savez, est en chemin de devenir vaccinal. Une stratégie à la française parce que nos voisins, dont les chiffres sont plus hauts que les nôtres, en tout cas pour l'instant, ont choisi dès maintenant de revenir à des formes de confinement qui s'apparentent au couvre-feu que nous avons subi, nous, pendant des mois. Restaurants, bars, musées, théâtres fermés tout court ou fermés après 20h aux Pays-Bas, au Danemark, en Irlande notamment. Évidemment, ce serait trop facile si c'était pas Noël. Rien ne dit qu'on ne va pas passer, nous aussi, à cette fermeture pour le premier de l'an. Mais pour l'instant, ce sont les non-vaccinés qui, de fait, vont devoir se confiner, faute de pouvoir fournir une preuve de vaccin. Et c'est très bien assumé par le gouvernement. Le fait est que cette stratégie, elle fonctionne. Elle a fonctionné à partir du 21 juillet, quand le pass est apparu. Et le week-end dernier, 26 000 non-vaccinés ont été piqués en première dose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Eh bien, de deux choses l'une. Soit on se félicite d'arrêter de mettre non-vaccinés et vaccinés sous les mêmes contraintes, soit on s'inquiète de ce qui pourrait tourner une stigmatisation qui ne nous aide pas à vivre ensemble. Tant que l'hôpital marche toujours au bord du précipice, vous diriez-vous, s'il fallait refermer les magasins, refermer les restaurants, refermer tout cela et en revenir à un couvre-feu? Malgré la circulation du virus, dont on est tous conscients, est-ce qu'il y a une moins mauvaise solution que celle d'un pass vaccinal qui se dessine pour tous? Où en êtes-vous, vous, juste avant les fêtes? C'est à vous de nous le dire, c'est le téléphone sonne. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et le premier, c'est vous, Cédric. Bonsoir et bienvenue.
Oui, bonsoir. Alors moi, ma question, elle est très simple. En fait, aujourd'hui, il y a des tas de gens pour qui le pass vaccinal, ça ne va pas changer la vie. Ils n'ont pas les moyens d'aller au resto, ils n'ont pas les moyens d'aller au cinéma, ils n'ont pas les moyens de sortir. Donc est-ce qu'il ne faut pas, là-dessus il y aurait beaucoup de choses à dire, et est-ce qu'il ne faut pas instaurer une obligation totale vaccinale? Ça mettra aussi le pouvoir face au pied du mur et à prendre des responsabilités, à dire allez-y, c'est sans risque, on prend la responsabilité. Voilà.
Alors, allez-y, c'est sans risque. Je suis pas sûr que ce soit une phrase, en fait, qui soit prononçable par tout pouvoir que ce soit. Mais merci pour cette entrée en matière, Cédric, pour discuter ensemble jusqu'à 20h. Benjamin Davido est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir à
tous. Vous êtes infectiologue et directeur général référent Covid-19 à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et Nicolas Hurtel est avec nous également. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre et aussi modélisateur à l'hôpital Corentin Celleton d'ici Les Moulineaux. C'est à vous que je vais poser la question, Benjamin Davido. Est-ce que de toute façon le gouvernement aurait le droit de pourrait se permettre de dire, le nôtre ou n'importe quel autre gouvernement d'ailleurs, après ça c'est fini, ou c'est la dernière fois, ou ça va forcément marcher? Je me souviens plus de la formulation exacte de Cédric.
Alors d'abord, je pense, pour répondre à Cédric, il faut expliquer que la vaccination obligatoire, à mon avis, elle est extrêmement difficilement réalisable. Pourquoi ? Parce qu'à la différence de la vaccination obligatoire des vaccins de l'enfance, on va pas aller chercher les Français chez eux avec la police et les vacciner de force. En réalité, jusqu'alors, la politique vaccinale, ça a été une politique d'incitation. Et en réalité, si on veut se rapprocher d'une politique d'obligation vaccinale, eh bien la meilleure façon, en effet, c'est probablement ce pass vaccinal. Et de fait, aujourd'hui, avec un test PCR ou antigénique de moins de 24 heures, on est déjà dans une situation qui s'assimile, encore une fois, et qui pousse les gens à une très forte incitation, voire obligation. Et pour répondre à sa question, je crois qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a aucun risque d'aucun traitement. Chaque cas est particulier, évidemment. Il faut rappeler que le vaccin, ça reste un médicament. Et pareil, lorsque vous prenez du paracétamol, on peut faire des effets très graves. On peut même mourir d'une intoxication par le paracétamol.
Qu'est-ce que ça nous dit, ça, Nicolas Hurtel, de la situation dans laquelle nous sommes tous collectivement aujourd'hui? Si je pouvais vous montrer l'ensemble des questions qui sont là sur cet écran-là, de gens qui nous appellent au téléphone sonne, on a effectivement des Cédric, beaucoup, on a des gens qui disent eh ben c'est tant pis pour eux, on a des gens qui disent mais qu'est-ce qu'on va où ça nous emmène, qu'est-ce que ça dit de nous, ce moment où nous sommes, à votre avis?
Écoutez, c'est toujours des situations qui peuvent résulter de l'incertitude. C'est-à-dire que finalement, face à une incertitude, on va réagir, on va se défendre, je dirais, psychologiquement de certaines façons. Alors parfois, justement, pour certaines personnes, c'est rassurant de se dire que on a un message qui est clair. C'est-à-dire, je suis obligé de me vacciner. Un message clair peut rassurer certaines personnes. Alors que d'autres personnes qui vont plutôt réagir à l'incertitude sous la forme d'une peur, eh bien, vont avoir le sentiment que finalement c'est intolérable, puisqu'on remet en question leur libre arbitre, leur propre décision au-delà de recommandations sanitaires.
Est-ce que vous avez le sentiment, vous, Benjamin Davidot, que oui, il y a une vraie efficacité derrière cela, mais est-ce que c'est suffisant? C'est-à-dire que dans un monde idéal, on va le dire comme ça parce que rien n'est simple, est-ce que vous diriez, vous, qu'il faudrait, au point où nous en sommes, revenir à certaines fermetures, au moins à certaines heures, quelque chose qui ressemblerait au couvre-feu qu'on a pu connaître? Est-ce que vous avez le sentiment que tout misé sur la vaccination peut être une vraie porte de sortie?
En réalité, je pense que il faut tout faire pour ne pas avoir à reconfiner ou à mettre un couvre-feu qui sont des décisions politiques pour protéger l'hôpital. Mmh. La réalité, c'est que je crois aujourd'hui, tout ne repose pas exclusivement sur cette troisième dose ou cette dose de rappel, puisqu'on a largement gardé les gestes barrières, le port du masque, et que actuellement, ce qui prime, à mon sens, c'est surtout l'aération des espaces clos. Parce qu'il faut le rappeler, la particularité, au-delà même d'Omicron qui arrive en ce moment en Europe, c'est cette période de l'hiver. En réalité, la cinquième vague, c'est la vague de l'automne, et demain, on est le 21 décembre, ça va être le début d'une vague hivernale de maladies du Covid, mais aussi d'autres agents infectieux. Donc on ne peut pas de toute façon tout résumer à la vaccination, c'est une certitude, mais je pense que ça serait extrêmement dur, à la fois sur un plan médical et scientifique, d'expliquer que demain, on va devoir infliger des contraintes à 9 adultes sur 10 qui ont fait l'effort d'aller vers la vaccination.
Puisque, c'est une question qui revient souvent aussi, Benjamin Davidot, puisque la circulation du virus n'est pas stoppée par le vaccin, ça on l'a bien compris qu'il empêche les formes graves, ce qui est déjà effectivement extrêmement important, mais que ça n'empêche pas la circulation, donc le tous vacciné, effectivement, ne stoppera pas la circulation. Mais qu'est-ce qui peut stopper une pandémie, au fond? La question que tout le monde se pose là, c'est qu'est-ce qui stoppe une pandémie, ou est-ce qu'il faut partir du principe que ça s'arrête jamais?
Écoutez, c'est une excellente question. On aurait pu poser la question à l'envers. C'est quand la fin de la pandémie, souvent, on nous l'a posée de façon provocateur au début.
C'est quand qu'on arrive.
Exactement. C'est vrai. C'est une sorte de marathon, mais on voit jamais le bout. C'est un oasis. Et à chaque fois qu'on avance, la ligne de mire recule. En réalité, probablement, ce qui va se passer avec cette maladie, comme l'histoire de la médecine, c'est qu'elle s'arrêtera lorsqu'elle aura croisé une majeure partie de la population et, si possible, une majeure partie de la population vaccinée. En réalité, ce qu'il faut imaginer, comme vous l'avez très bien expliqué, c'est lorsqu'on a 2 doses ou 3 doses, on est extrêmement bien protégé contre une forme grave et donc la probabilité d'arriver à l'hôpital est relativement faible, même si évidemment elle n'est pas nulle parce que chaque individu est particulier, des gens qui ont des maladies générales et plus on a des maladies générales, plus on est âgé, plus on est à risque de contracter la maladie. Et à partir du moment où on aura cette double immunité, c'est-à-dire l'immunité vaccinale et naturelle, on peut imaginer qu'en réalité le virus va se saisonnaliser, c'est-à-dire qu'il va trouver une saison dans laquelle il a l'habitude d'agir, probablement l'automne et l'hiver, et qu'il va aller rejoindre, j'ai envie de dire, ses petits copains autres coronavirus, et que nous, on ne sera plus dans des situations de décider qu'est-ce qui se passera ou non en termes de confinement sanitairement, et surtout, bien au-delà de la France, que vous l'avez rappelé, c'est l'ensemble des pays qui subissent ces mêmes décisions et ces mêmes interrogations.
Nicolas Hortel, ça veut dire qu'il faut attendre que le virus se transforme en grippe, en fait, c'est ça que ça veut dire, au fond. Une espèce de grosse grippe sur laquelle il faudra effectivement se vacciner peut-être régulièrement, mais il faudra que ça circule comme ça.
Je compléterai en disant qu'aussi, c'est par rapport à l'information qu'on reçoit. C'est-à-dire qu'effectivement, là, on est dans une situation particulière, c'est-à-dire que les services d'hospitalisation se remplissent, les unités sont intensives, donc il y a une pression qui est nette sur l'hôpital, ce qui explique pourquoi, finalement, on en parle beaucoup. Imaginons, ce qu'on espère, que grâce à la vaccination, ou grâce finalement à des mutations, qui sait, qui permettraient aussi de réduire la létalité du virus, qu'on soit dans une situation finalement où des gens sont contaminés, mais où il y a moins de conséquences. Mmh. Finalement, il y a la fin de l'épidémie, c'est une question, mais les services qui nous intéressent, c'est surtout la fin des conséquences de l'épidémie. Et il est certain que si demain il y avait une pandémie, mais que il n'y avait fort heureusement, je ne sais plus de morts, plus d'hospitalisation, etc. Évidemment, ça ferait pas la une des journaux. Évidemment, on n'en parlerait pas et on n'y penserait même pas.
Et on n'attendra pas plus de morts, en fait. Et c'est ça qui est aussi assez vertigineux et difficile à... C'est difficile de mettre des mots là-dessus, monsieur le modélisateur, et en même temps psychiatre. Donc, il y a un moment où on arrivera à... Comment ça s'appelle? Un nombre de morts acceptables. Pardon, j'y mets des tas de guillemets, mais il y a un moment où il faudra dire... on peut lâcher les vannes, en fait. Comment ça se détermine, ce moment-là?
Ah, c'est une question difficile. Ouais, mais je dirais que déjà, ce qui est important, c'est que alors, Et je vais dire, c'est de voir aussi les populations touchées et de voir le taux de létalité. Mmh. Alors, il y a déjà le taux de mortalité. Alors, c'est très difficile de répondre quel serait
un taux de mortalité. On sait que la grippe traditionnelle, génère tant de morts par an. C'est une fatalité, c'est comme ça. À un moment, qu'on le veuille ou non, on comptera aussi comme ça avec ce coronavirus, en fait. On le sait, non? Ou pas?
Il y a très probablement qu'il y aura, parce qu'on sait qu'un certain nombre de malades qui décèdent du coronavirus sont des patients très âgés, qui ont des comorbidités, et c'est vrai que se pose parfois la question aussi, finalement, de savoir la cause exacte du décès. Est-ce que, finalement, c'est malheureusement... on sait que la mort fait partie de la vie, c'est ainsi. Est-ce que ça concerne des personnes qui étaient extrêmement fragilisées et qui se retrouvent positifs au moment du décès, qui auraient pu survenir, combien même il n'y avait pas d'infection, voilà. Mais je crois que là, ce dont on parle des conséquences, c'est déjà en termes de capacité de fonctionnement d'un système de soins. C'est aussi déjà un premier aspect, puisque on parle évidemment énormément du coronavirus. Il faut rappeler qu'il y a d'autres maladies. Il faut rappeler aussi qu'il y a des conséquences nettes de cette pandémie qui ne sont pas liées qu'au coronavirus, mais qui sont liées parfois aux difficultés de prendre en charge à temps un certain nombre d'autres pathologies. Attention, je ne dis pas que c'est que l'hôpital n'est plus capable de remplir sa mission. Je crois qu'il y a un travail qui est admirable fait par tous les professionnels de santé, justement pour tout faire, pour prendre en charge tous les patients. Mais c'est parfois tout simplement le fait que les patients se retiennent de consulter, justement soit par peur d'infecter, soit par peur de venir engorger un système de santé qui est déjà fragilisé.
Pierre, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute, Pierre.
Ben écoutez, moi je suis soignant, je suis anesthésiste réanimateur. Et la question de la liberté, certes, mais la liberté des uns s'arrête ou commence la liberté des autres. Et moi, je commence tout doucement à être excédé d'être pris en otage, parce que quand on regarde les chiffres aujourd'hui, 70% des personnes hospitalisées sont non vaccinées. Dans les 30% qui sont vaccinés, 15% à peu près sont des immunodéprimés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réagi au vaccin et sont... physiologiquement parlant, à classer du côté des non-vaccinés. Et 15%, on retrouve les facteurs de risque. Mmh. On l'a dit tout à l'heure, vos interlocuteurs l'ont rappelé, en fait, la question du confinement, la question des mesures contraintes, c'est une question de capacité de l'hôpital de prendre en charge.
Bien sûr,
et 6 millions de non-vaccinés, c'est un réservoir suffisant que pour mettre le système par terre, d'autant que ce système est épuisé. Qu'on est en train de sacrifier, de détruire une génération de soignants avec une perte de sens totale, parce que quand vous voyez les gens se dégrader, vous les voyez se dégrader 10 jours, une semaine avant, et vous dites « Allez, ça y est, ça va partir au tube », et vous savez qu'ils vont mourir, et vous n'avez aucune possibilité de changer le cours des choses. Et donc vous avez non seulement des heures de travail sans compter, un sentiment d'inutilité totale, et quand vous discutez avec ces non-vaccinés, ce sont des arguments qui sont mais totalement incompréhensibles, et en plus, ils se permettent d'être arrogants et agressifs en nous disant qu'on est juste là pour ça. Donc pour moi, de mon point de vue, la question n'est pas de savoir si, mais quand cette obligation vaccinale sera décidée pour l'ensemble de la population, c'est une question de santé publique. Et s'arrêter à des éléments de pratique, quand on veut... on peut.
Alors, vous voulez dire sur une obligation, donc il va même au-delà d'un pass qui serait un pass vaccinal.
Exactement, une obligation vaccinale. Ouais. Si vous voulez être soignant, aujourd'hui, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé. Et pas que le Covid, c'est valable aussi pour l'hépatite B. Eh bien, à un certain moment, il va falloir que les non-vaccinés soient contraints de telle sorte que ce soit une obligation, ou bien ils perdent le droit. Ce n'est pas normal qu'une 10% de la population prennent en otage la totalité d'une économie, d'un pays, d'un continent.
Merci pour cette intervention, Pierre, qui est soignant. Donc, Benjamin Davidot, qui l'êtes vous aussi. Est-ce que pris en otage, c'est un terme que vous utilisez aussi? Et on sent la lassitude, c'est le mot que je cherchais, la vraie lassitude de notre auditeur soignant à l'instant. Est-ce que vous êtes dans la team Pierre, si je puis dire ?
Oui, oui, complètement. J'ai senti beaucoup d'émotion dans tout ce qu'il a dit, et du vécu d'un soignant qui soigne et qui sauve et qui observe malheureusement le décès et qui constate aussi, et moi je fais partie de ces jeunes soignants, qu'on va aussi fatiguer ces soignants, et c'est ça aussi qui explique que l'hôpital faiblit alors qu'il était déjà en jachère. En réalité, je pense qu'il a bien résumé la situation, d'abord parce que au-delà de l'aspect politique que je ne connais pas, puisque je suis soignant et pas un politicien, c'est un coût de la société, c'est un vrai coût pour tous ceux qui ont fait l'effort encore une fois d'aller à la vaccination. Et puis il faut rappeler que notre système de soins, il est financé par le fonctionnement de la société, par nos impôts. Et donc ces gens-là qui font le choix en réalité de vivre à contre-courant de cette vaccination et donc de ne pas se protéger individuellement. Et donc lorsqu'ils arrivent à l'hôpital, ils ont fait un choix de se rendre malade en quelque sorte. Eh bien, derrière, souvent, ils n'ont pas conscience de la réalité des conséquences. Et c'est vrai que c'est aussi extrêmement difficile, je parle au nom des équipes, puisque les équipes sont extrêmement agacées, parfois, de cette relation entre le médecin et le malade, qui est toujours à sens unique. Et c'est vrai, rappelez-vous, il y a un an et demi, on applaudissait les soignants au balcon. Aujourd'hui, je pense que c'est un doigt d'honneur aux soignants lorsqu'on refuse de se faire vacciner pour des raisons qui ne sont pas la contre-indication. Et la contre-indication vaccinale en France, on estime qu'il y a 50 personnes, donc on est loin des 6 millions de non-vaccinés.
C'est intéressant ce que dit Benjamin Davido, Nicolas Hurtel, parce qu'effectivement, il y a un an et demi, on applaudissait, mais il y a assez peu de temps aussi, des soignants n'auraient pas ce vocabulaire-là, en fait, le doigt d'honneur, la prise en otage, etc. On n'aurait pas entendu cette forme de ras-le-bol là, en fait, qu'on entend dans les mots très clairs, ceux de Benjamin Davido et de notre ami Pierre à l'instant.
Oui, mais je crois que ça reflète bien aussi un véritable épuisement. Alors, je crois que Benjamin Davido le rappelait, effectivement, il faut bien imaginer que l'hôpital était déjà en souffrance depuis plusieurs années. Il suffit de reprendre même les certaines unes que vous pouvez voir. Et dessus, une crise très importante sanitaire s'est greffée et effectivement a pu, je dirais même un peu, achever le moral d'un certain nombre de soignants. Et d'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de soignants qui, du fait d'un épuisement ou d'un ras-le-bol, ont pu aussi quitter le navire. Et donc, ce qui fait que les soignants qui sont toujours à l'œuvre sont véritablement épuisés, en colère, mais finalement en colère, sans doute en colère contre le fonctionnement, contre parfois un manque de moyens, ça fait partie des revendications. Et aussi, effectivement, peut se porter sur cette fraction de la population non vaccinée.
On a compris qu'on était un pays qui n'explique plus et qui désormais contraint. Il y a un temps pour la pédagogie et ce temps est terminé, en fait. Vraisemblablement, on n'est pas les seuls, d'ailleurs. Les Autrichiens vont faire la même chose sur une vaccination obligatoire. D'autres encore, il y a beaucoup de fermetures. Mais on n'explique plus. Aujourd'hui, on contraint. Ça veut dire, de toute façon, Nicolas Hurtel, qu'il y aura toujours un nombre incompressible de gens qui n'iront pas, en fait. Est-ce que ça rentre même dans les modélisations, en fait ? Est-ce que vous dites de tout... Oh là, pardon, avec mon stylo, je viens d'effondrer le micro. Est-ce qu'il y a vraiment ce nombre incompressible ? On le sait, de toute façon, et on modélise autour de ça.
Oui, alors, déjà, c'est vrai quand même de rappeler tout de même que l'immense majorité des adultes sont vaccinés quand même dans le pays. Ça, je pense que c'est quand même important de quand même dire que, à l'échelle finalement de notre société, il y a quand même un élan quand même très important. Alors certes, il y a eu une incitation, c'est clair, avec le pass vaccinal, mais malgré tout, je dirais qu'on a suivi. Donc on est à plus de 90% de personnes vaccinées. Après, oui, la vérité, c'est que sur les vaccins obligatoires, alors... Benjamin Davido le rappelait, c'est-à-dire qu'effectivement, à part les vaccinations qu'on peut faire pendant l'enfance, je dirais, là, on arrive à couvrir une population à quasi 100%. Mais par contre, chez l'adulte, c'est comblé, parce qu'il faut bien imaginer que certaines personnes aussi peuvent être isolées, mais très isolées, et que à partir du moment où on dit...
Mais très isolées, elles contaminent personne, au fond. Donc ça compte pas.
Voilà, alors, c'est-à-dire que je dirais que là, une fraction de la population qu'on vise, qui est très minoritaire, il faut quand même le rappeler, c'est pas un constat d'échec global qui est très minoritaire. C'est finalement il y a certaines personnes qui, je dirais, se retrouvent à ne pas pouvoir le faire, j'ai envie de dire du fait d'un grand isolement ou différents facteurs, et puis des personnes qui font ce choix un nombre restreint. Après, la question effectivement, c'est quelle attitude adopter. Je dirais c'est une question politique qui est malgré tout délicate. Je crois que effectivement on sait qu'il y a certaines personnes, il n'y a pas que les personnes d'ailleurs qui ne sont pas vaccinées, certaines personnes qui ont pu faire usage de fausses vaccinations. On en voit aussi de plus en plus à l'hôpital. D'ailleurs, j'en profite, c'est aussi de rappeler qu'il y a des moyens de voilà, de se faire vacciner, même s'il y a info, vaut mieux le dire le dire maintenant. Voilà.
Il y en a eu plus de 182 000, il y a un chiffre qui est tombé de faux passes, c'est un très très gros chiffre. Et effectivement, autant le dire, en effet, pour pouvoir être soigné en conséquence, plutôt que de se retrouver dans des tragédies comme celle qu'on a vue la semaine dernière avec cette dame qui n'avait rien dit et qui est morte. Grégory nous attend, bonsoir Grégory.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, moi c'était juste pour me poser une question par rapport aux anciens patients, enfin personnes touchées par le Covid comme moi. Moi je l'ai eu en mars de cette année à l'occasion d'un déménagement. Symptômes légers, quelques courbatures, perte de l'odorat. J'ai fait encore une sérologie fin novembre et il s'avère que j'ai encore 3,5 fois le taux d'anticorps qui est indiqué sur le document que j'ai reçu. On a un seuil de 1000, je suis à 3500. Alors j'ai lu partout que on ne sait pas vraiment déterminer les seuils avec précision, mais alors pourquoi faire des sérologies, pourquoi indiquer des seuils sur les documents? Et autre aspect aussi que je voulais mentionner, il me semble que le Conseil de l'Europe a sorti une résolution au mois de janvier de cette année qui stipule clairement que personne ne peut être vacciné contre sa volonté. Mmh. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que, désolé de le dire, on s'assoit purement dessus? Est-ce que c'est pas contraignant? Enfin voilà, juste avoir quelques infos là-dessus.
Et alors, je sais pas si je veux piéger personne sur ce que dit l'Europe là-dessus, Nicolas Hurtel, parce que est-ce que vous le savez ça ou pas? Ce que dit notre ami Grégory, moi non, pour être tout à fait honnête, mais c'est peut-être aussi la raison pour laquelle, encore une fois, on n'est pas à l'obligation vaccinale. Si on souhaite ne pas se faire vacciner aujourd'hui, on est confiné, effectivement, alors fin janvier, hein, parce que pour l'instant ce pass n'existe pas, on est confiné, mais il n'y a pas de sortie. En revanche, Benjamin Davidot, moi j'aimerais que vous puissiez répondre effectivement à notre auditeur sur cette histoire de sérologie, parce qu'on a l'impression d'avoir entendu à peu près tout et son contraire. Il y a encore des gens qui nous disent, moi j'ai plein d'anticorps donc ça sert à rien. On nous a expliqué plusieurs fois au téléphone sonne que compter ces anticorps n'avait absolument aucun sens, on pouvait en avoir 2 et être très bien protégé, ou 3000 et très mal protégé. Mais du coup, il a raison Grégory, à quoi ça sert de nous demander de faire des sérologies?
Alors c'est pas tout à fait ça. En réalité, d'abord, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a plusieurs unités. En réalité, on n'arrive pas vraiment à avoir une unité internationale, même s'il y en a une qui se dessine. Et on sait que, en réalité, partout dans le monde, avec différentes machines, vous allez avoir différentes normes. C'est ça qui rend d'abord les choses compliquées. L'autre chose qui rend les choses compliquées, c'est tant bien même aujourd'hui, je vous dis que vous avez, comme Grégory, 3500 d'anticorps et que vous passez large. Le problème, c'est que dans un mois, on ne sait pas si vous passerez toujours au-dessus de la barre. Et typiquement, dans un mois, vous voyez où je veux en venir, il y a ce fameux variant Omicron qui, justement, a la capacité de neutraliser jusqu'à 30 fois plus les anticorps que le faisait le virus dans sa forme originelle. Et donc, probablement, c'est un intérêt, en tout cas à visée scientifique, à visée épidémiologique, pour également évaluer, avoir une espèce d'idée du pourcentage de la population qui pourrait être immunisée. Mais en réalité, ça peut orienter des médecins dans des cas particuliers au cas par cas. Mais en termes de santé publique, ça n'a pas de sens, parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est justement, comme vous l'avez expliqué, comme en fonction d'un individu, d'une personne, si vous êtes plutôt jeune, eh bien un taux d'anticorps faible suffira à vous protéger d'une forme sévère. Si vous êtes, à contrario, très immunodéprimé, on sait que souvent, on a du mal à répondre à la vaccination et ça ne suffit pas. Donc, la réponse est que, normalement, un médecin qui a l'habitude ne prescrit pas de sérologie parce que ça ne guide pas l'indication à une dose de rappel.
On a parlé, Nicolas Hurtel, à l'instant de quelques pourcentages et quelques chiffres Omicron, donc qui neutralise 30 fois plus les anticorps. Techniquement, il y en a encore assez peu chez nous. On dit que ce chiffre, il est totalement minimisé parce que Anglais, Danois notamment font plus de séquençage que nous. Moi, j'ai aussi lu que le nombre de cas Omicron double tous les 2 jours. Qu'est-ce que vous voyez, vous, sur vos graphiques?
Écoute, alors, au-delà de cet aspect de modélisation, sur les chiffres qu'on a, effectivement, c'est un virus qui se transmet, une forme de virus, un variant qui se transmet beaucoup plus. Voilà. Et donc, en fait, il y a une sorte de compétition entre les différents variants. Et finalement, celui qui va se transmettre le plus vite va avoir pour effet de devenir dominant. Et effectivement, aujourd'hui, un certain nombre de données laissent présager que ce variant Omicron deviendra majoritaire assez vite. Alors, je me garderai de vous dire la date exacte à partir du moment où ça passera les 50%, mais c'est pour l'instant, en tout cas, la trajectoire que ça semble prendre. Voilà.
Il y a autre chose aussi qui semble assez peu claire. Je ne sais pas si vous saurez nous aider, Benjamin Davidot. On avait dit au début, très contagieux, ça effectivement c'est très clair, mais moins pathogène, donc moins dangereux. Et puis, j'ai l'impression qu'on est plus ou moins en train de revenir là-dessus en regardant les chiffres, notamment du Royaume-Uni ou du Danemark. Donc, est-ce qu'on peut toujours dire ça? Ou est-ce qu'on se garde bien de dire que cet Omicron est plus contagieux, mais peut-être moins pathogène?
D'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi est-ce que au début on a cru artificiellement, et quand je dis on, je crois que les spécialistes ne l'ont pas cru. C'est ceux qui ont voulu croire qu'ils l'étaient moins qui se sont persuadés. C'est parce que lorsqu'une maladie commence, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs en mars 2020, c'est-à-dire que vous êtes souvent pris de court parce que vous voyez les premières formes et les formes qui ont peu ou pas de symptômes. Et en réalité, c'est lorsque l'eau monte énormément, comme lorsque la baignoire déborde, que vous apercevez des formes sévères. Et donc aujourd'hui, la réponse va arriver, puisque notamment il y a ce pic d'Omicron en Angleterre, au Royaume-Uni, vous savez, à Londres, c'est plus de 90% des contaminations, et donc on va avoir une estimation vie réelle des formes graves. Les formes graves, on ne peut pas les rater parce que vous comptez les malades à l'hôpital. En réalité, il est probablement tout aussi létal, et la vérité, c'est que tant bien même il le serait 30% moins, s'il est 10 fois plus contagieux, et bien arithmétiquement vous êtes perdant dans la balance. Et donc je pense qu'en réalité c'est une fausse question. Ça veut dire qu'au contraire la vague va arriver plus vite. Pour le coup, je pense que là, si elle arrive en France, en tout cas on pourra parler de ce fameux tsunami que nous on redoutait, parce que si vous avez une maladie qui est très contagieuse, vous avez beaucoup de cas au même moment, et donc arithmétiquement si vous avez 0,5% d'hospitalisation avec quelque chose qui est très contagieux, et bien vous allez vous retrouver dans une situation de saturation à l'hôpital. Ouais.
Michel est avec nous. Bonsoir Michel.
Oui, bonsoir.
Allez-y.
Très bien. Écoutez, moi je ne suis pas particulièrement macroniste, hein, soyons clairs, mais je tenais quand même à féliciter ce gouvernement parce que je trouve qu'il a su, tout au long de cette crise, adapter sa stratégie vaccinale. Et excusez-moi de le dire parce que ça paraît parfois malvenu, mais il a été quand même extrêmement respectueux de tout le monde. Et sa stratégie vaccinale, je me souviens de au début de la première vague, on citait le Danemark en exemple, oui, etc. Et désormais, voilà, je trouve que son adaptation est particulièrement bonne. Voilà.
Eh ben, écoutez, on l'entend rarement, donc merci au passage, Michel. C'est vrai qu'on a tendance à se comparer, Nicolas Hortel, à les voisins, aux voisins qui font toujours mieux que nous, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'ils font au fond la même chose, ou qu'en tout cas chacun, y compris dans les confinements, a des formes différentes de confinement. Au fond, on a l'impression qu'on tourne là-dessus depuis mars 2020, en ayant tendance à regarder notre nombril à nous, en fait, et oubliant que le virus ne connaît pas les frontières.
Oui, en même temps, il y a un point positif, je dirais, d'un point de vue politique. C'est vrai qu'à partir du moment où on a une maladie qu'on ne connaît pas très bien, il y a différentes possibilités, et c'est toujours intéressant de regarder ce qui peut marcher aussi. Par contre, on se rend compte aussi qu'il faut avoir une vision un peu dans les temps longs. C'est vrai que parfois, de regarder à court terme ce qui peut se passer, on sait que c'est des systèmes de vagues. Donc, ce qui fait que on peut avoir certains pays qui finalement ne vivent pas une vague à un temps donné et qui vont la vivre quelques temps après. Donc, il y a une certaine toujours prudence à avoir. Mais je crois que c'est à la fois des sources d'enseignement, mais finalement, ce qui est plus intéressant, c'est de voir les consensus qui se dégagent, tout simplement. Le consensus, c'est qu'il y a un certain nombre de mesures qui sont centrales dans la gestion de la pandémie.
Benjamin Damido, est-ce que ça vous fait peur qu'on soit en campagne électorale? Je m'explique, ça veut dire que ça crée du débat, ça crée de l'opposition de type campagne électorale, et y compris lorsque on décide d'un passeport qui serait vaccinal au lieu d'être sanitaire, y compris quand on décide de couvre-feu ou pas, etc. Est-ce que vous vous dites, vous, dans votre tête de médecin, que l'entrée de plein pied dans la campagne ne va finalement pas vous faciliter la vie à vous en termes de décision politique, quelle qu'elle soit ?
Oui, bien sûr qu'on pense à ça. D'abord, on peut se féliciter, on est presque étonné qu'il y ait une décision courageuse de remettre sur la table cette obligation vaccinale déguisée par le pass vaccinal. Je pense que beaucoup n'y auraient pas cru avant les élections. Et de même, on s'interroge toujours lorsqu'il y a des décisions, ou plutôt des questionnements vis-à-vis du confinement et des couvre-feux hypothétiques, de savoir quelle est la part de décision sanitaire et quelle est la part de décision politique. Et donc, c'est toujours très délicat parce que on est dans une situation qui, en tout cas en termes de calendrier, va coïncider difficilement. A contrario, si on veut se rassurer, on peut se dire qu'on espère que d'ici là, d'abord, on aura passé cette cinquième et cette sixième vague, et qu'en mai, avril prochain, on sera dans une situation où la saisonnalité aidante, probablement, on pourra faire beaucoup de promesses sanitaires.
Régine est avec nous. Bonsoir Régine.
Bonsoir.
On vous écoute Régine.
Bien, écoutez, moi je voulais parler des enfants, des petits.
Allez-y.
On sait que la vaccination n'empêche pas d'être contagieux. On sait que les enfants ne font pas de forme grave. On sait aussi que les enfants de 5 à 11 ans ont besoin de pratiquer un sport, des activités, etc. Et pas qu'on leur offre à Noël un smartphones et les mettre devant la télé ou devant un smartphone. Or, si il y a obligation vaccinale, parce que nos petits-enfants, moi je suis une grand-mère, hein, nos petits-enfants devront être devant leur téléviseur ou devant leur smartphone s'ils ne sont pas vaccinés.
Alors non, donc, je vous arrête tout de suite parce que c'est pas valable pour les enfants.
Deux petits-enfants qui font... Si, j'ai deux petits-enfants, il y en a un qui fait du handball, l'autre qui vit en montagne et qui fait du ski. Mmh. Ils doivent présenter des passes sanitaires à partir de fin janvier.
Ah, mais ils ont plus de 12 ans.
Oui, mais ça va bientôt...
D'accord, non, parce que je pensais que vous parliez des petits-enfants. Donc du coup,
mais ça va bientôt arriver et ils ont plus de 12 ans, oui. Enfin, ce sont des enfants, ils sont en pleine... Donc, il y a obligation vaccinale, ou alors, on en fait des légumes devant leur smartphone, la télé. Donc là, il y a quelque chose qui ne me va plus du tout. Et nous, les grands-parents, les parents sont dans un état de colère, mais nous, les grands-parents, et qui sommes pour certains des très jeunes grands-parents, nous sommes vraiment furieux, furieux. Donc je veux que ça soit entendu, ça.
Ben, on a entendu que vous étiez furieuse, Régine, et merci de votre appel. Benjamin Davido, fallait-il mettre, selon vous, y compris les plus de 12 ans, dans la case passe sanitaire, qu'il soit vaccinal ou sanitaire d'ailleurs, mais dans la case passe sanitaire?
Alors, ma connaissance, d'abord, il n'est pas dans le passe vaccinal. Surtout, ils ne sont pas éligibles en ce moment à la troisième dose. Donc, ça veut dire que s'ils ont eu leurs deux doses de façon pérenne, ils peuvent jouir de leur activité en collectivité. Ce qu'il faut bien comprendre, malheureusement...
Je voudrais vraiment redire, pardon de vous interrompre, que tout ça ne concerne pas les 5-11 ans qui potentiellement sont vaccinés, puisqu'en ce moment c'est ouvert, on est d'accord, mais toutes ces histoires de passe ne concernent pas les 5-11 ans, alors que les choses soient vraiment très claires. Pardon, Monsieur Davido.
Absolument, non, je vous en prie. Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que on oublie souvent, mais malheureusement, ce que mes collègues pédiatres ont bien expliqué, c'est que entre les 12-18 ans, en réalité, ce sont des grands enfants, ce sont des adolescents. On peut malheureusement faire des formes plus ou moins sévères hospitalières, et on a vu très clairement avec cette quatrième vague un rajeunissement des formes qui aussi crée de la consommation de santé chez les plus jeunes. Vous savez, actuellement, dans un autre registre, et là pour le coup ce sont les nourrissons, qu'il y a une vague de bronchiolite et que nos collègues pédiatres travaillent d'arrache-pied pour soigner cette maladie respiratoire pour laquelle il n'y a pas de vaccination. Et je terminerai sur ce point que les études scientifiques anglaises ont montré qu'on pouvait faire jusqu'à 7% de Covid long dans une population pédiatrique de grands enfants. Et on sait d'ailleurs qu'il y a aussi de l'absentéisme chez ces enfants. Il y a eu plusieurs témoignages d'ailleurs sur plusieurs chaînes récemment, d'enfants qui ne pouvaient plus être scolarisés avec parfois des symptômes qui traînaient pendant 6 mois. Donc je crois que la vaccination des 18 ans, elle a quand même un certain rationnel avec une grande part de bénéfices individuels. En revanche, vous avez raison, la vaccination des 5-12 ans, je pense que c'est beaucoup plus délicat parce que là, pour le coup, elle met face à face, en opposition, 6 millions de Français adultes non vaccinés qui ont un véritable risque d'hospitalisation et 6 millions d'enfants qui ont un risque extrêmement faible lorsqu'ils ont moins de 12 ans.
Et ça, Nicolas Hurtel, c'est quelque chose sur lequel on a du mal à peser quand on est parent, on peut le comprendre en fait. C'est plus compliqué, en tout cas.
Oui, je pense que c'était en tout cas peut-être sage en tout cas la position de la Haute Autorité de Santé de permettre cette vaccination, mais sans la rendre obligatoire. Surtout que finalement, aujourd'hui même, alors d'un point de vue de modélisation sur l'impact que pourrait avoir cette mesure généralisée sur les 5-11 ans d'une vaccination obligatoire, effectivement, un certain nombre de modèles qui nous indiquent que ça aurait très 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 peu d'impact.
Vous ne voyez pas bouger les lignes en fait, même si demain tous les 5-11 ans étaient vaccinés, vous ne voyez pas bouger les lignes.
Non,
c'est intéressant parce que comme ils sont très contagieux de ce qu'on nous explique, c'est intéressant ce que vous nous dites.
Oui, alors il y a quand même, comment vous dire, il y a quand même un certain nombre de débats. C'est vrai qu'on peut entendre certaines études qui se positionnent en disant que ça serait un moteur des infections. C'est finalement dans un grand nombre d'études, c'est pas des choses qu'on voit. Hein. En fait, les arguments les plus rationnels qu'on pourrait utiliser, c'est justement dans ces périodes de testing, je dirais massif, même à l'école, c'est justement de regarder ces clusters. Hein, et donc de voir dans quelle mesure, finalement, lorsqu'on détecte un cas positif, on a un grand nombre d'enfants ensuite qui deviennent positifs. Donc on se rend compte que ce n'est pas des choses qu'on voit tant que ça. Hein. Donc ce qui fait penser assez rationnellement que non, ce n'est pas un des moteurs de l'épidémie. Par contre, là où c'est des choses importantes, c'est qu'on en reparle, finalement, où on va avoir certains parents que ça va rassurer, tout simplement. Il y a effectivement des données, voilà, en tout cas que rappelait Benjamin Davido par rapport, on va dire, aux plus de 12 ans. En tout cas, ça peut rassurer certains parents d'autoriser cette vaccination à partir du moment où l'HAS estime que que les données de tolérance et de sécurité sont très bonnes, voilà. Et par contre, qu'il y ait des parents justement qui puissent affirmer leur démontrer leur colère, qu'ils aient cette liberté de dire bon, s'il n'y a pas un bénéfice qui est démontré à l'échelle collective et qui est très discutable à l'échelle d'un enfant, attention, qui va bien, qui est en bonne santé, c'est pas la même chose si c'est peut-être un jeune enfant qui peut souffrir de pathologie chronique, où là, je pense que c'est très sage de voir le pédiatre et de lui poser cette question. Mais là, dans ces cas-là, on peut motiver cette idée que pour certains parents, on peut comprendre qu'il n'y a pas cette volonté de faire vacciner un enfant de moins de 11 ans.
Juste avant la dernière question au standard, Benjamin Davido, là-dessus, pour éviter un dilemme aux parents qui hésitent, un enfant entre 5 et 11 ans, mais qui va aller chez son grand-père ou sa grand-mère pour les vacances de Noël, qu'est-ce que vous dites? Testez-le juste avant, si vous ne voulez pas le faire vacciner, juste pour être sûr.
J'ai surtout envie de dire, assurez-vous que les grands-parents aient eu leur troisième dose. Je crois que c'est comme ça qu'il faut raisonner. Et après, on peut ensuite aller dans la dentelle et dire qu'on va tester ses enfants au moindre symptôme. Mais je crois qu'encore une fois, comme l'a bien expliqué Nicolas Hortel, la problématique des enfants, à mon avis, aujourd'hui, elle n'a pas lieu. À la fois, d'abord parce qu'il y a une tolérance et que les enfants qui ont des comorbidités, eux, sont en indication. Et que, tant bien même, on démarrait demain la campagne de première dose de ces enfants. Vous avez compris, ça n'évitera pas la sixième vague.
Louis, pardon, excusez-moi Louis, oui. J'avais oublié votre nom. Louis, vous êtes là, bonsoir, pardon, on vous écoute.
Oui, alors je vais faire très vite, parce que je sais que la dernière question, faut faire vite.
Allez-y, bravo.
Je me pose une question, alors je tiens à préciser tout de suite que je n'ai pas la réponse. Je me demande, est-ce qu'il faut encore rembourser les patients Covid non vaccinés de la même façon que les vaccinés pour ceux qui sont en réanimation, quand on sait que ça coûte très cher à l'État?
Merci beaucoup Louis pour votre question. Et là j'ai quand même envie de dire, Nicolas Hortel, c'est raide. C'est vraiment très très raide. Parce qu'à ce compte-là, vous êtes fumeur, vous avez un cancer du poumon, vous n'êtes pas remboursé, vous buvez un peu trop, la cirrhose n'est pas remboursée non plus. Enfin, ça nous emmène sur quelque chose qui est extrêmement violent.
Oui, vous donnez de très bons exemples, effectivement. Et, on sait qu'il y a un grand nombre de facteurs de risque pour différentes pathologies qui peuvent derrière mener à un certain nombre de pathologies coûteuses. Je pense qu'encore une fois, il y a une certaine... il faut savoir garder raison. On est basé sur un modèle solide. Enfin, il faut bien aussi comprendre, en parler, finalement, il y a une fraction de personnes qui ne sont pas vaccinées. Certaines personnes peuvent le faire par choix délibéré. Et puis d'autres personnes, il peut y avoir d'autres facteurs. Il faut bien le savoir. Donc il peut y avoir des facteurs psychologiques, il peut y avoir des personnes qui peuvent être aussi extrêmement anxieuses pour d'autres raisons. Il peut y avoir des freins liés à l'isolement. Je crois qu'on s'honore aussi avec notre système. Et d'ailleurs, c'est le cas de tous les soignants. Je tiens à le rappeler. C'est-à-dire que parfois, on entend parler de ça, que ce soit dans mon hôpital, je sais, dans tous les hôpitaux, on soigne tout le monde. Et ça, c'est très important.
Et Benjamin Davido, j'ai même pas besoin de vous poser la question. Vous disiez parfois, il y a des agacements, mais néanmoins, tout le monde est soigné et bien soigné. Cela va sans dire. Une toute dernière question, elle est pour vous, monsieur Davido d'ailleurs. Est-ce que vous attendez Novavax avec une certaine impatience, puisqu'au fond, on est dans un vaccin sans ARN? Donc peut-être que ça offre une porte de sortie à ceux qui ont toujours cette peur dans un coin de leur cerveau.
Alors moi, je pense qu'il y a une grande partie des anti-vax qui, en réalité, sont anti-vaccins, ils ne sont pas anti-vaccins ARN. Donc ça ne réglera pas tout. En revanche, sur un plan scientifique, c'est un vaccin que j'attends avec impatience parce qu'il permettra de faire un panachage avec cette fameuse vaccination hétérologue, c'est-à-dire de cibler plusieurs cibles de la vaccination, et ça pourrait potentiellement nous permettre d'avoir une meilleure immunité sur la durée, et donc l'avenir nous le dira.
L'avenir nous le dira, c'est ce qui nous servira de conclusion. J'espère que l'avenir nous dira tout ça. Merci vraiment beaucoup à tous les deux. Merci à tous pour vos très nombreuses questions. Portez-vous bien.